Bienvenue sur les chroniques de la Revue française de comptabilité. Créé en 1945, le comité d'entreprise est devenu le comité social et économique en 2017. La RFC consacre son numéro spécial de décembre à l'évolution de cette instance emblématique qui célèbre ses 80 ans sans avoir pris une ride, en s'adaptant sans cesse aux transformations de la société et des entreprises. Pour analyser cette formidable évolution, on va se poser une question assez centrale. Le CSE est-il passé d'un rôle, on va dire, de simple gestionnaire d'activité sociale, le fameux CE des chèques vacances, à un véritable contre-pouvoir stratégique au cœur de l'entreprise?
C'est toute la question, en effet.
Et nous allons voir comment, à chaque étape, l'expert comptable est devenu un allié indispensable de cette transformation. Alors, commençons par le commencement. 1945, la France sort de la guerre. Elle est en pleine reconstruction. Quand le comité d'entreprise est créé, quelle était l'idée derrière? Quelle était sa mission précise?
En fait, dès le départ, il y avait une double casquette, une double ambition.
Ah oui?
Oui. La première, c'est celle que tout le monde connaît. La gestion des activités sociales et culturelles. L'idée, c'était de favoriser l'accès des travailleurs aux loisirs, au sport, à la culture. C'était un vrai progrès social pour l'époque.
C'est la fameuse mission arbre de Noël, si on veut schématiser un peu.
Exactement. Mais il y avait une seconde mission, beaucoup plus fondamentale et souvent moins connue.
Laquelle ?
Il s'agissait de créer un lieu de dialogue sur la marche de l'entreprise. Pour la première fois, les représentants des salariés avaient un droit de regard, d'information sur la situation économique et financière, sur les choix techniques.
Sur l'organisation du travail même.
Précisément. C'était une petite révolution dans le dialogue social.
Donc, dès l'origine, cette dimension économique était présente. Mais j'imagine que les prérogatives ont beaucoup évolué en 80 ans. Quelles sont les grandes étapes qui ont vraiment, on va dire, musclé le jeu de cette instance ?
Le parcours est jalonné de plusieurs textes clés. Il y a eu 1968, bien sûr, avec la reconnaissance de la section syndicale, qui a renforcé la légitimité des acteurs salariés. Mais le vrai tournant...
Le grand saut.
Le grand saut qualitatif, ce sont les lois Auroux de 1982.
En quoi est-ce qu'elles ont tout changé ?
Elles ont considérablement élargi le champ de compétences du comité d'entreprise. Elles ont aussi créé le CHSCT.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Voilà. Qui a mis la santé et la sécurité au cœur des préoccupations. Et surtout, elles ont instauré le budget de fonctionnement.
Ce qui n'est pas un détail, j'imagine.
Ah non. En donnant au CE les moyens financiers de fonctionner de manière autonome, la loi lui donnait aussi les moyens de se former et de recourir à des experts. C'est vraiment à ce moment-là que le rôle de l'expert comptable auprès des élus prend son envol.
D'accord. Et la dernière grande étape, c'est cette fusion générale de 2017.
Précisément, les ordonnances dites Macron ont fusionné les trois instances qui existaient, donc les délégués du personnel, le comité d'entreprise et les CHSCT,
ouais.
en une seule année. Le comité social et économique, le fameux CSE. L'objectif affiché, c'était de simplifier le paysage.
Cette évolution est fascinante. On voit que le législateur a progressivement donné plus de points à l'instance. Mais les textes, c'est une chose. Dans la réalité, où est-ce que le CSE a vraiment du mordant sur le plan économique? Je pense notamment à la stratégie de l'entreprise.
C'est exactement le bon point. La consultation sur les orientations stratégiques est sans doute l'une des prérogatives les plus puissantes du CSE.
Pourquoi?
Parce qu'il ne s'agit pas juste d'être informé après coup. Il s'agit de donner un avis sur la stratégie de l'entreprise pour les années à venir et surtout sur ses conséquences.
Conséquences sur l'emploi, les compétences, l'organisation. Là, l'expert comptable ne se contente pas de vérifier les chiffres du PowerPoint de la direction, j'imagine.
Ah, absolument pas. Son rôle est de lire entre les lignes. Vous voyez, la direction va présenter une vision. Par exemple, pivoter vers le digital ou verdir notre production.
Des grandes déclarations d'intention.
Voilà. L'expert va traduire ça en questions concrètes. D'accord, mais ça signifie combien de postes supprimés ou transformés ? Quel est le budget de formation associé? L'entreprise a-t-elle vraiment les moyens de ce pivot? Il aide le CSE à passer de la communication à la réalité économique et sociale du projet.
C'est une sorte de traducteur de langue de bois, stratégique pour les élus.
C'est une bonne image, oui. Et c'est un traducteur qui donne les moyens d'agir. Car l'avis du CSE, éclairé par cette analyse, peut contenir des propositions alternatives.
Et ces propositions, elles ont un vrai poids ?
Oui, car point crucial, elles doivent être transmises à l'organe de gouvernance, le conseil d'administration ou de surveillance. Ce n'est plus une simple discussion en interne, ça remonte au plus haut niveau.
Parlons d'une autre mission qui semble très technique, mais qui touche directement au portefeuille des salariés entreprises, la participation. Comment l'expert comptable intervient-il là-dessus?
Alors, c'est une mission essentielle. La formule de calcul de la participation au bénéfice est, il faut le dire, particulièrement complexe. Elle mélange le bénéfice fiscal, les capitaux propres, la masse salariale.
Un vrai casse-tête.
Absolument. Le CSE a donc le droit de faire appel à un expert comptable et qui est d'ailleurs payé par l'employeur pour vérifier que le compte est bon.
On pourrait penser que c'est un simple contrôle arithmétique, mais j'imagine que c'est plus subtil.
Beaucoup plus. Imaginez que le bénéfice de l'entreprise est un gâteau. La formule légale définit la taille de la part qui doit revenir au salarié. Le rôle de l'expert, c'est de s'assurer que personne n'a changé la recette en douce.
Ou cacher une partie de la farine.
Pour que le gâteau final, et donc la part des salariés, soit plus petit que prévu. C'est exactement ça.
Et comment est-ce qu'on peut cacher la farine, pour filer la métaphore, dans un grand groupe ?
Une technique classique, ce sont les prix de transfert. Imaginez qu'une filiale française très rentable achète des services à une autre filiale du même groupe, située par exemple en Irlande, à un prix artificiellement élevé.
D'accord.
L'argent sort de France, le bénéfice français diminue, et donc la participation des salariés aussi. Et cet argent se retrouve dans un pays à la fiscalité plus avantageuse. C'est souvent légal, mais le rôle de l'expert, c'est de mettre en lumière ces flux pour que le CSE puisse questionner leur pertinence.
On voit bien le rôle de vigie, et cette vigilance est sans doute encore plus cruciale quand l'entreprise traverse des moments difficiles, des restructurations. Concrètement, qu'est-ce qu'ils font quand ça chauffe ?
L'intervention peut se faire à deux moments. Idéalement, en amont, en prévention.
C'est-à-dire ?
Grâce aux consultations régulières, l'expert peut identifier des signaux faibles, des indicateurs qui se dégradent. Si les faits sont jugés préoccupants, le CSE peut déclencher son droit d'alerte économique. Et là, l'expert est mandaté pour analyser la situation en profondeur.
Et si le projet de restructuration est déjà là sur la table, un plan de sauvegarde de l'emploi, un PSE ?
Alors là, la mission de l'expert est très encadrée. D'abord, il doit analyser la réalité du motif économique. Est-ce que les difficultés sont réelles et suffisantes pour justifier des licenciements ? Ensuite, et c'est fondamental, il évalue si les mesures d'accompagnement proposées aux salariés sont proportionnelles aux moyens financiers de l'entreprise, mais aussi...
à ceux du groupe auquel elle appartient.
Exactement. C'est le point clé. On ne regarde pas seulement la filiale qui va mal, mais la santé financière de tout le groupe.
Ce qui évite qu'un groupe très profitable ne se sert des difficultés d'une filiale pour licencier à bon compte.
Tout à fait. L'expert fournit au CSE une contre-analyse économique et financière objective qui devient une base de négociation solide pour améliorer le plan.
On a parlé du passé, du présent, mais le CSE doit aussi se tourner vers l'avenir. Et l'un des plus grands défis qui s'imposent aux entreprises, c'est la transition écologique. Comment est-ce que ça vient percuter les missions du CSE ?
C'est un élargissement majeur de son champ de compétences et c'est très récent. La loi Climat et Résilience de 2021 a posé une première pierre en intégrant les conséquences environnementales des décisions de l'entreprise dans les consultations.
C'est-à-dire que quand on parle stratégie, on va aussi parler bilan carbone.
En substance, oui. Mais la véritable bascule arrive avec la directive européenne CSRD.
CSRD ?
Oui. À partir de 2025, elle va obliger de nombreuses entreprises à publier un rapport de durabilité très détaillé. Et le CSE devra être consulté sur ce rapport. On ne parle plus seulement de finances, mais de climat, de biodiversité, de social.
Donc, si je comprends bien, l'expert comptable n'est plus seulement celui qui regarde les chiffres du passé. Il va devoir aider le CSE à évaluer des risques complètement nouveaux. L'impact d'une canicule sur la productivité ou d'une nouvelle norme anti-pollution, par exemple.
C'est exactement ça. L'expert comptable devient un intégrateur. Son rôle est de faire le lien entre ces trois piliers, l'environnemental, l'économique et le social.
D'accord.
Par exemple, la stratégie de décarbonation, c'est très bien pour la planète, mais quel impact sur l'emploi ? Est-ce qu'elle va rendre certains métiers obsolètes ? Comment adapter les conditions de travail ? Il aide le CSE à s'assurer que la transition écologique soit aussi une transition juste socialement.
On passe d'un rôle d'auditeur financier à celui d'évaluateur de risque stratégique global.
Pour tout le modèle de l'entreprise, oui. C'est une transformation profonde.
C'est une transformation profonde du métier, en effet. Pour conclure, revenons à des considérations très pratiques. Il y a des changements comptables importants qui arrivent pour les CSE au 1er janvier 2025. De quoi s'agit-il ?
Effectivement, il s'agit d'une modernisation des états financiers. Deux changements majeurs sont à retenir. Une nouvelle définition du résultat exceptionnel et la suppression de la technique du transfert de charges.
Commençons par le résultat exceptionnel. Qu'est-ce qui change ?
Jusqu'à présent, la définition était assez large, ce qui laissait une certaine marge d'interprétation. Désormais, pour être qualifié d'exceptionnel, un produit ou une charge devra être lié à un événement majeur et inhabituel.
Donnez-nous un exemple. Une cyberattaque massive ou une inondation qui touche une usine, c'est de l'exceptionnel.
Oui, ce sont de parfaits exemples. En revanche, un litige avec un salarié, même pour un montant important, sera désormais considéré comme faisant partie du résultat d'exploitation. C'est un risque inhérent à l'activité.
Donc, une grosse amende pour non-respect du RGPD, par exemple, qui pouvait passer pour exceptionnelle avant, devient maintenant un risque d'exploitation normal.
Tout à fait. La lecture du résultat d'exploitation devient plus fidèle à la réalité des risques de l'activité courante.
Et le deuxième point, la suppression du transfert de charges. C'est une technique un peu obscure, pourquoi la supprimer ?
C'est presque un changement de philosophie. Cette méthode permettait par exemple de neutraliser une charge en l'annulant par un produit. Une indemnité d'assurance qui compense un sinistre par exemple.
D'accord.
Le problème, c'est que ça pouvait rendre les comptes moins lisibles. On ne voyait plus clairement la charge initiale, ni où le produit qui la compensait.
On cachait un peu la poussière sous le tapis, en quelque sorte.
On peut le dire comme ça. La réforme impose plus de transparence. Les produits, comme les refacturations ou les indemnités, devront être enregistrés dans des comptes bien identifiés. La lecture de la performance sera plus claire, plus directe.
Quel est l'impact de tout cela pour les CSE et leurs experts comptables ?
D'abord, une comptabilité plus normée, plus rigoureuse. Ensuite, et c'est crucial, un besoin accru de pédagogie. L'expert devra expliquer aux élus pourquoi la présentation des comptes change. Et enfin, bien sûr, il faut anticiper, mettre à jour les logiciels, adapter les plans de compte.
On le voit bien, le CSE est une instance en perpétuelle mutation. Parti de la gestion des activités sociales, il est devenu un interlocuteur sur la stratégie, les restructurations et maintenant la durabilité. Face à cette complexité, le rôle de l'expert comptable, ce tiers de confiance, semble n'avoir jamais été aussi central.
Absolument.
Alors que les entreprises naviguent dans un monde incertain, la question qui se pose est la suivante. Le dialogue social, lorsqu'il est éclairé par une expertise indépendante, est-il en train de devenir non plus seulement une obligation légale, mais le principal levier de résilience des entreprises pour le futur ? La Revue Française de Comptabilité vous remercie et vous donne rendez-vous sur le site revuefrançaisedecomptabilité.fr.